Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest, au Nunavut et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Il y a maintenant 2 ans que les 122 logements de l'immeuble High Rise de Hay River sont inhabitables, et ce, en pleine crise du logement. Les députés avaient beaucoup de questions à poser ces derniers jours à la ministre responsable de la Société d'habitation des TNO. Jusqu'à maintenant, combien ont coûté les séjours en centre d'isolement au gouvernement? Ma collègue Marie-Soleil Desautels a fait enquête. À quoi ressembleront les prochains mois au territoire du Nord-Ouest au terme de la campagne de vaccination? La question demeure toujours sans réponse, malgré certaines tentatives à l'Assemblée législative. Le Nunavut comptera bientôt 5 nouveaux refuges qui pourront accueillir les femmes et enfants victimes de violences familiales. Mon collègue Denis Laure nous parle des audiences sur le projet de loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et finalement, l'organisme Music NWT est présentement en discussion avec la santé publique pour un possible retour des concerts dans les salles du territoire. J'en ai discuté avec la vice-présidente Jessica Payer. Il y a maintenant 2 ans que les quelques 122 logements de l'édifice High Rise à Hay River sont vides et inhabitables. L'incendie qui s'est déclaré le 15 mars 2019 avait alors forcé l'évacuation d'environ 125 personnes. Selon le Hay River Council of Persons with Disability, qui est l'organisme notamment responsable des services offerts aux personnes sans abri, certains anciens locataires de l'immeuble qui s'étaient alors trouvés à la rue il y a 2 ans vivent encore en situation de vulnérabilité et peinent à se trouver un logement stable. La question a été soulevée à l'Assemblée législative le 9 mars par le député de Hay River Nord, Rocky Simpson. Selon lui, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest devrait considérer d'acheter l'immeuble High Rise, une éventualité qui est explorée par la ministre responsable de la Société d'habitation, Polly China.
Looking at that building, we are in conversations with the owner presently, and those are ongoing as well too. And we are looking at the co-investment funding applications as well too, and the rapid rehousing, and looking at federal programming that would best suit the conditions of that high rise.
La ministre responsable de la Société d'habitation des TNO affirme être présentement en discussion avec le propriétaire de l'immeuble High Rise. Elle dit également explorer les possibilités offertes par le Fonds de co-investissement pour le logement rapide qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. Elle a toutefois ajouté que des problèmes supplémentaires s'ajoutent aux dégâts causés par l'incendie, dont le vieillissement des fondations de l'immeuble. Le député Rocky Simpson a également évoqué des unités d'habitation qui seront bientôt laissées vacantes par des agents de la GRC qui auront bientôt accès à de nouveaux logements. Ces unités sont présentement la propriété du gouvernement fédéral. La ministre Polly China a indiqué au cours de cet échange que la Société d'habitation des TNO cherche présentement à acquérir l'ensemble des logements qui appartiennent au gouvernement fédéral et ce, à travers le territoire. Elle dit souhaiter en obtenir la gestion et consacrer une partie de ses propriétés au programme d'accès au logement.
Housing is far more than a commodity. Housing is a human right.
On entend ici la députée de Kamloops, Caitlin Cleveland, qui a déposé une motion le 10 mars à l'Assemblée législative, une motion visant à revoir le mandat de la Société d'habitation des territoires du Nord-Ouest. L'objectif est de s'assurer qu'on y considère le logement comme un bien public et un facteur de santé et de bien-être pour les résidents. Comme l'a souligné Mme Cleveland, un sondage auprès des collectivités des TNO mené en 2019 révèle que 42 % des logements du territoire comportent au moins un problème majeur. C'est 10 % de plus qu'en 2019.
The Northwest Territories Housing Corporation mission statement is focused on housing stock, but is silent on the social program outcomes.
Au dépôt de la motion, la députée a affirmé que la mission de la Société d'habitation à l'heure actuelle est concentrée autour du parc de logements et qu'elle demeure silencieuse quant aux résultats des programmes d'aide sociale. L'ensemble des députés réguliers ont appuyé la motion. Le député de Nunakput, Jackie Jacobson, en a profité pour souligner un réel manque de logements pour les jeunes familles de la région et un besoin pressant de rénover plusieurs logements construits dans les années 70 à 90. Le député de Hay River Nord, Rocky Simpson, a quant à lui lancé un appel à agir concrètement. Avant le dépôt de la motion en période de questions, le député a pointé ce qu'il considère comme de l'inaction de la part du gouvernement face à la crise du logement qui sévit à travers le territoire. Il avait alors pointé la Société d'habitation des territoires du Nord-Ouest.
To address a growing housing crisis in the NWT, if she would commit to considering either a cabinet shuffle or changing out senior bureaucrats in the NWT Housing Corporation.
Si cette inaction en pleine crise du logement provient de la ministre responsable de la Société d'habitation, est-ce que la première ministre considère un remaniement ministériel? Avait alors demandé le député. La première ministre Caroline Cochran a exprimé sa confiance envers le travail de la ministre Policina et réitéré l'importance de ce dossier pour son gouvernement.
Still, it was my priority when I came, and it's still my priority, and I will do what is necessary to make sure before the end of this assembly that we have more houses on the ground and that we address, not all, I'm not naive, but we start addressing the housing needs of the Northwest Territories. That is my commitment.
La première ministre Caroline Cochran a notamment affirmé qu'elle fera ce qui est nécessaire pour accroître le nombre de logements au territoire du Nord-Ouest. Combien ont coûté les centres d'auto-isolement depuis le début de la pandémie? À partir de données incomplètes du secrétariat de coordination pour la COVID-19, l'Aquilon les estime à au moins 21 millions de dollars. Ma collègue Marie-Soleil Desautels s'est penchée sur la question. Marie-Soleil, comment avez-vous obtenu ces estimations?
Je dirais d'abord qu'on n'a pas cherché à faire d'estimation. On s'attendait à obtenir des chiffres précis de la part du gouvernement. C'est le 7 janvier qu'on a demandé au secrétariat de coordination pour la COVID-19, combien le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a dépensé pour chaque centre d'isolement depuis le 21 mars 2020, incluant les frais d'hébergement, de nourriture, du personnel et du transport. Et le courriel qu'on a reçu il y a quelques jours de la part du secrétariat n'incluait pas la réponse. Cependant, ils nous ont confirmé le coût moyen pour héberger une personne dans un centre d'isolement pendant 14 jours, que ce soit à Yellowknife, Inuvik, Hay River ou Fort Smith. Le coût pour l'hébergement et pour la nourriture était de 4 000 $ par personne avant le 18 décembre 2020. Le coût a baissé à 3 300 $ à la suite d'une nouvelle entente depuis. Puis, grâce à des statistiques hebdomadaires fournies par le secrétariat de coordination pour la COVID-19, on a pu estimer que, bon, ça fait beaucoup de chiffres, là, mais sur les 5 341 personnes qui se sont isolées du 22 mars 2020 ou 27 février dernier, 4 655 l'ont fait à un coût moyen de 4 000 $ et 686 à 3 000 $. Si on multiplie et qu'on additionne tout ça, on peut estimer que les coûts pour l'hébergement et la nourriture dans les centres d'isolement montent ainsi à 21 millions de dollars. Shelley Brown, qui est porte-parole du secrétariat de coordination pour la COVID-19, a confirmé que notre estimation était raisonnable lorsqu'on lui a soumis nos chiffres.
Et là, ces 21 millions de dollars-là, ça comprend seulement l'hébergement et la nourriture.
Oui, c'est sans compter les frais de déplacement et de sécurité, ni les employés du gouvernement dont les tâches tournent autour des centres et des individus qui s'y auto-isolent. D'ailleurs, le ministère des Finances du gouvernement territorial prévoyait quant à lui que les dépenses totales pour les centres d'isolement, c'est-à-dire, bon, en incluant justement tous les frais de déplacement, de sécurité, de personnel, etc., coûteraient 20,3 millions pour l'année fiscale 2020-2021. Selon son porte-parole, Todd Sasaki, leurs prévisions semblent ainsi sous-estimées puisque notre estimation monte à 21 millions juste pour l'hébergement et la nourriture.
Depuis le 5 janvier 2021, le gouvernement ne paye plus pour les séjours dans les centres d'auto-isolement pour les résidents qui voyagent pour le plaisir à l'extérieur du territoire. On couvre toujours les séjours là, pour les déplacements non discrétionnaires pour besoins médicaux, par exemple, raisons familiales ou pour les étudiants qui reviennent au TNO.
Est-ce que le nombre de personnes qui s'isolent dans les centres a chuté depuis le 5 janvier, Marie-Soleil?
Oui, depuis ce resserrement qui a été annoncé le 1er décembre, le nombre de personnes arrivant chaque semaine a chuté significativement. Il y a eu seulement 355 arrivées dans les 8 semaines qui ont suivi le 5 janvier. Dans la semaine du 14 au 20 février, c'est seulement 27 personnes qui ont débuté un séjour. Puis la semaine la plus occupée de l'année, quand on regarde les données, c'est du 9 au 15 août. Il y a eu presque 300 personnes qui ont débuté leur isolement dans les centres cette semaine-là. Bon, on s'entend, c'était l'été, les gens voyageaient, etc. Mais la semaine en août a coûté la même chose que les 8 semaines qui ont suivi le 5 janvier.
D'accord, donc une seule semaine. On se souvient que ce changement en janvier, là, à partir du 5 janvier, ça visait à diminuer le budget consacré aux centres d'isolement. On se fiait notamment à des consultations auprès des municipalités. Ça visait également à répondre à la demande formulée à tous les Ténois d'éviter les déplacements non essentiels à l'extérieur des territoires du Nord-Ouest. Marie-Soleil des Hôtels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
À quoi peut-on s'attendre une fois que 75 % des adultes seront immunisés au territoire du Nord-Ouest? La question a été posée à plus d'une reprise et la réponse de l'administratrice en chef de la santé publique demeure la même. Les prochaines nouvelles arriveront d'ici la fin du mois d'avril, au terme de la campagne de vaccination.
I think we all recognize that there's a lot happening, and the public, I think, just wants a plan. They want to see not an outdated one is the main concern, and I think it's causing a lot of anxiety.
Je crois que le public aimerait avoir un plan. C'est ce qu'a avancé le député de Yellowknife Nord, Rylan Johnson, qui a évoqué en chambre le 12 mars un niveau croissant d'anxiété parmi la population. Selon lui, un document devrait être fourni rapidement pour indiquer à quoi pourrait ressembler la prochaine année sous la COVID-19. Présenté au printemps 2020, le plan d'assouplissement par étapes des mesures de santé publique serait aujourd'hui désuet. De nouveaux facteurs déterminants se sont depuis imposés, dont l'état de la vaccination au Canada et l'apparition de nouvelles variantes du virus. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, a confirmé que le plan initial est maintenant dépassé.
So certainly, emerging wisely now looks like an outdated document because so much has happened in the last 10 months or so since it came out. So it's my understanding that she is in fact reviewing the plan and she plans to update it and that work will be with us publicly towards the end of April.
Je crois comprendre que la docteur Camille Candola est en train de revoir le plan qu'elle compte mettre à jour, a-t-elle affirmé en chambre, en ajoutant toutefois que le tout devrait être rendu public d'ici la fin du mois d'avril. Depuis la première déclaration d'état d'urgence sanitaire des territoires du Nord-Ouest le 18 mars 2020, l'administratrice en chef de la santé publique, la docteur Camille Candola, dispose d'un pouvoir de décision discrétionnaire sur les questions de santé publique liées à la COVID-19.
One of my concerns is that whenever we ask these questions in the House of the Minister of Health, there's this arm's length nature of the Chief Public Health Officer, and everything depends on, you know, when that decision will be made by that office.
Ce qui me préoccupe, indique le député Johnson, c'est qu'à chaque question posée à la ministre, l'autonomie de l'administratrice en chef de la santé publique est mise de l'avant. Le député Rylan Johnson a alors demandé à la ministre s'il n'était pas possible, au moment de reconduire l'état d'urgence sanitaire, d'émettre certaines exigences à la docteur Candola, comme celle de fournir rapidement une mise à jour du plan d'assouplissement des règles pour éclairer la population. La ministre a réitéré que pour ce type de questions, le gouvernement se fie entièrement à l'expertise de la docteur Candola.
I don't provide direction of the kind that the member has discussed to the CPHO. She is a medical doctor. She has specialized training to assess the risk and decide how to respond to it. We do meet often. We provide our input, but we are not in a position to direct her. We need to respect her authority because, as a matter of fact, what she's proposed so far has been very effective.
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, indique qu'en fin de compte, c'est la docteure Candola qui évalue la pandémie. Nous devons respecter son autorité, ajoute-t-elle, puisque dans les faits, ce qu'elle a proposé jusqu'à maintenant s'est avéré très efficace. Au Nunavut, 5 maisons d'hébergement pour femmes et enfants inuits victimes de violences familiales verront bientôt le jour à travers le territoire. Service aux Autochtones Canada en financera la construction et le fonctionnement avec l'appui d'Emploi et Développement social Canada. L'organisation Pauktutit Inuit Women of Canada évalue le coût de la construction de ces refuges à environ 20 millions de dollars. Cet investissement du gouvernement fédéral vient répondre à la demande de l'organisation Pauktutit de construire de nouveaux refuges pour femmes et enfants dans chacune des 4 régions de l'Inuit Nunangat ainsi qu'à Ottawa. La ville d'Ottawa est le milieu urbain au Canada où vit la plus grande population d'Inuits. Selon les statistiques fournies par Service aux Autochtones Canada, les femmes inuites sont confrontées à un taux de violence 14 fois plus élevé que les autres femmes au pays. À l'heure actuelle, la ville d'Iqaluit ne compte qu'un seul refuge pour les femmes et enfants qui fuient la violence familiale, et ce, pour les 12 collectivités de la région du Kikiktaaluk. Ces nouveaux programmes seront conçus et administrés par les Inuits. Ce segment est tiré d'informations recueillies par la journaliste Charlotte Poulin-McMillan de l'Initiative du journalisme local. Depuis le début de l'année 2021, le taux d'emploi au territoire du Nord-Ouest surpasse le niveau qui prévalait avant le début de la pandémie. Selon le dernier rapport émis par Statistique TNO, en février dernier, on atteignait un taux d'emploi de 66,7. Il s'agit d'une augmentation de près de 2 par rapport à février 2020, avec 700 postes additionnels. Ces nouveaux postes sont tous à temps partiel. L'embauche des femmes atteignait également un sommet en février dernier, avec un taux d'emploi de 69,7, soit le niveau le plus élevé depuis décembre 2016. Le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans a également atteint son niveau le plus élevé des 4 dernières années. Le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, qui est présidé par le député libéral Bob Bettina, a commencé ses audiences sur C-15. C'est le projet de loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Denis Laure suit ce dossier pour nous. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Denis, le comité a commencé ses audiences la semaine dernière. On recevait l'ancien député néo-démocrate CRI, Roméo Saganache, qui est un peu l'architecte du projet de loi.
Oui, le premier projet de loi à parler de la Déclaration des Nations unies avait été présenté par M. Saganache et ça avait été défait par les sénateurs conservateurs. La nouvelle mouture s'est présentée par le ministre de la Justice au fédéral, David Lametti. M. Saganache, qui était aux audiences, s'est montré satisfait du texte. Il a même affirmé que C-15 était meilleur que son propre projet de loi par certains aspects qu'il n'a pas précisé. Monsieur Saganache a quand même dit qu'il y avait des confusions dans la section 4 du projet de loi et qu'il y avait des différences entre les textes anglais et français du projet de loi. Voici ce qu'il dit.
La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Elle n'y porte pas atteinte. Il y a une différence entre les deux versions. Je préfère en fait la version française qui est beaucoup plus clair en termes d'intention de cette disposition de la loi C-15.
Donc, l'ancien député néo-démocrate Roméo Saganache, l'adoption éventuelle de ce projet de loi aurait des effets sur d'autres lois, Denis?
Oui, selon Heather Exner-Pirot, qui est une spécialiste des relations avec les Autochtones et qui comparaissait aux audiences la semaine passée, ça peut toucher à peu près n'importe quel texte du corpus législatif canadien. Pour elle, au point de départ, la Déclaration des Nations unies est un texte un peu idéaliste qui n'est pas conçu pour une application directe. Comme problématique pour les lois, elle a parlé de la Constitution. Oui, l'article 35 qui parle des peuples autochtones, mais le texte est plus centré sur les pouvoirs des provinces et du fédéral. Évidemment, il y a aussi la loi sur les Indiens qui devrait être remaniée. La loi rend les Autochtones tributaires des décisions ministérielles pour certains aspects. Pour l'ancien premier ministre des territoires du Nord-Ouest, Stephen Kakfui, la loi ne peut être directement abolie.
On l'écoute.
Things like the Indian Act has to be done away with and action plan should be to turn over the resources and the drafting of legislation to the chiefs and the people that now live under the Indian Act.
Donc, il faut que la loi et que l'écriture de la législation soient confiées aux chefs et aux peuples autochtones, selon Stephen Kakfui, qui a été premier ministre des TNO entre 2000 et 2003. Denis, vous avez réalisé cette entrevue avec M. Kakfui pour le journal L'Aquilon. Vous dites qu'il s'est montré très amer face au processus.
Face au processus et face aux gens en place, M. Kakfui s'est montré pessimiste que le projet de loi C-15 soit adopté avant la fin de la session, comme le demande une lettre ouverte qu'il a co-signée avec notamment l'Assemblée des Premières Nations et le Conseil circumpolaire Inuit et le Ralliement national des Métis. M. Kakfui accuse le premier ministre de ne pas avoir tenu ses promesses d'adopter durant les deux premières années de son mandat les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, dont fait partie l'adoption de la Déclaration des Nations Unies. Il dit que le gouvernement du Canada est responsable des conditions féodales, et c'est vraiment le terme qu'il a utilisé, dans lesquelles vivent les Autochtones actuellement, avec des problèmes d'eau potable, de logement, etc.
Donc, le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord compte faire l'étude article par article du projet de loi le 22 avril. C'est pas encore fait. La Chambre des communes pourrait décider de confier la lecture à un comité législatif. Denis Laure, merci beaucoup.
Merci Thomas. Au revoir.
Du côté de la scène culturelle, des voix se sont élevées en mars pour réclamer une reprise des concerts dans les différentes salles des territoires du Nord-Ouest. L'organisme Music NWT est présentement en discussion avec la santé publique dans le but d'obtenir rapidement certains assouplissements aux règles qui, à l'heure actuelle, affectent la plupart des artistes et la plupart des salles de concert du territoire. J'en ai discuté avec la vice-présidente de Music NWT, Jessica Payer. Au début du mois de mars, il y a une pétition qui a été lancée par l'artiste Patrick Jacobson. Ça a été appuyé par Music NWT. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle avec cette initiative-là?
En fait, Music NWT s'est empressé d'appuyer la pétition de Patrick Jacobson et aussi de demander d'avoir une rencontre avec Peter Workman du côté de la santé publique. On a été patient pendant un moment, mais on veut un retour de la musique dans nos salles de spectacle, dans nos bars et restaurants, si c'est possible, notamment parce que le NAC a aussi recommencé depuis un moment. Ce sont les seuls, je crois, qui peuvent placer des événements un après l'autre en suivant les recommandations de la salle, tandis que si par exemple, on veut mettre un événement au pub, il faut demander à chaque fois, ce qui est vraiment compliqué pour les propriétaires de ces restaurants et bars-là, et aussi compliqué pour les artistes, c'est du temps et tout ça.
C'est ce qui est mis de l'avant cette semaine, là. Donc dans les rencontres qui ont lieu entre Music NWT et l'administrateur de la santé environnementale. De son côté, la docteure Camille Candola, là, administratrice en chef de la santé publique, a une réponse à offrir à toutes les questions entourant l'assouplissement des règles sanitaires. On va avoir des informations d'ici la fin avril au terme de la campagne de vaccination. Est-ce que Music NWT serait prête à attendre à la fin du mois d'avril pour avoir peut-être des bonnes nouvelles?
Et on aimerait avoir des réponses avant ça. D'ailleurs, en ce moment, il y a des restrictions qui sont en place au niveau de la musique. Nous, qu'est-ce qu'on demande, c'est que ça soit appliqué pour les salles et non par concert. Et aussi d'avoir une possibilité, en respectant les règles, d'avoir la permission d'avoir un 30 minutes de prestation, comme c'est prévu, d'avoir un 30 minutes de pause où on désinfecte et il y a une circulation d'air qui se fait et qu'ensuite on reprenne avec un 30 minutes de spectacle. C'est un peu ce qu'on faisait, si on veut, si je nomme le Gold Range avec les Welders Daughters. Eux jouaient un 45 minutes avant de prendre une pause. Je pense d'ailleurs à la chanteuse des Welders Daughters qui est encore en dehors du pays et qui attend qu'il y ait moyen de faire des spectacles au Gold Range pour pouvoir revenir. Et je sais que ce groupe-là, c'était un emploi temps plein. Là. Je pense que c'est un bon compromis de faire 30 minutes de musique et 30 minutes de pause. C'est ça qu'on met de l'avant. La première discussion qui a eu lieu avec Peter Walkerman était très positive par rapport à ça.
Est-ce qu'on a un peu plus de détails très positifs? Est-ce qu'on sait ce qui s'est dit, par exemple?
Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs... tu sais, il fallait les rassurer aussi qu'on avait la santé des gens à cœur, et c'est le cas. On veut pas reprendre les spectacles de musique sans qu'il y ait les protocoles en place. Un minimum de 3 mètres entre les musiciens et le public, s'il n'y a pas de barricade, et si... Il y a des barrières. Nous, on pensait à des plexiglas. Différentes options à ce moment-là. Ça peut être des installations permanentes, ça peut être des installations mobiles, des plexiglas qui sont juste autour du micro pour les chanteurs. Donc, avec ces barrières, on proposait un 2 mètres de distance. Et on parle aussi d'une désinfection des instruments de musique. Un non-partage des microphones, que chaque artiste ait leur propre microphone, c'est vraiment ce qu'on propose.
Et est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on pourrait avoir, disons, une réponse ou certaines informations additionnelles de ces discussions là, qui ont lieu avec l'administrateur en chef de la santé environnementale, M. Walkerman?
En fait, nous, on travaille à... récupérer un peu toutes les informations, des lettres de support des différents bars ou spectacles qui voudraient reprendre les spectacles de musique. On essaie aussi de se prévoir une partie de budget pour soutenir le paiement des artistes. Si un bar a 50% moins de gens qui sont dans la salle, ils peuvent pas payer les artistes le même montant. Là, ils ont pas les mêmes revenus en vente d'alcool et en vente de nourriture.
On en est à cette étape-là à l'heure actuelle. On attend des réponses. Espérons-le, dites-vous, là, avant la fin avril. Jessica Payeur, vice-présidente de l'organisme Music NWT, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
Merci à toi.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.